soir, le rassemblement de l'opposition a appelé la population à manifester le mardi 19 décembre dans les rues de Kinshasa et en province. Selon les organisateurs, l'objectif était d'exiger le départ du président Kabila au 31 décembre 2017. Ils protestaient aussi contre le calendrier électoral ainsi que la loi électorale. Les nouveaux gouverneurs des provinces du Kasaï central, de la Mongala et de l'Équateur sont connus à l'issue de l'élection organisée hier jeudi par la CENI. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans la tribune de la presse. Et autour de cette table, nous avons Dominique Dinanga, il est journaliste à la radio Top Congo FM, mettant à Kinshasa. Bonsoir Dominique Dinanga.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kapi. C'est encore une fois un grand plaisir de me retrouver ici pour parler de l'actualité.
Pius Romain Roland, journaliste à rdc26.com. Bonsoir Pius Roland Romain.
Bonsoir Guy Mathé, je salue les auditeurs qui nous écoutent sur Radio Okapi. Merci beaucoup de l'invitation.
Et Baba Isaac Kalonji, journaliste indépendant basé à Mbujima et au Kasaï Oriental. Bonsoir Baba Isaac Kalonji.
Bonsoir mon frère Guy Mathé.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'aborder le débat de ce soir, on revient sur les sujets qui ont défrayé la chronique cette semaine. On écoute donc cette revue de presse que nous propose Alain Hirong.
Bonsoir. Plusieurs sujets ont alimenté la presse kinoise de cette semaine. Commençons par la réaction du gouvernement congolais à l'enquête menée par deux journalistes de RFI et Reuters sur le double assassinat des deux experts de l'ONU en mars dernier dans le Kasaï. Radio France Internationale et Reuters ont révélé dans une nouvelle enquête que des fonctionnaires congolais, notamment des agents des services spéciaux, ont été impliqués dans l'élimination physique des experts onusiens Zaïda Catalane et Michael Sharp, tués en mars dernier. Lors d'un point de presse très offensif tenu ce jeudi 21 décembre, le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende a balayé d'un revers de la main les conclusions de cette enquête de RFI et Reuters, relevant que la journaliste de RFI Sonia Rollet a délibérément écarté dans son enquête les échanges suspects qu'elle a eus avec des présumés bourreaux de deux enquêteurs onusiens, rapporte casinfo.ca. En somme, résume Kinshasa Times. .cd, rien dans cette enquête ne permet de déduire la complicité ou l'implication du gouvernement de la RDC ou des organes liés au gouvernement dans le meurtre des experts onusiens, selon Lambert Mende. Concernant les conclusions de la 6e conférence des gouverneurs des provinces de la RDC qui s'est clôturée mardi dernier à Goma, le Phare rapporte qu'à l'issue de cette 6e session, les gouverneurs ont sollicité du gouvernement central l'amélioration de leur régie financière au regard du faible niveau de maximisation des ressources dues aux facteurs économiques, financiers et institutionnels. Les 26 ont par ailleurs pris l'engagement d'accélérer la mise en œuvre de la décentralisation et la consolidation de la démocratie, renseigne pour sa part Forum des As. Et pour ce faire, poursuit le quotidien, le gouvernement central a pris l'engagement de payer les arriérés dus aux provinces et reprendre les décaissements en faveur des exécutifs provinciaux. L'avenir pour sa part souligne que ces travaux ont été couronnés par une motion de soutien des gouverneurs au chef de l'État Joseph Kabila. De l'avis du journal, cette 6e conférence s'est déroulée dans un climat serein, responsable et républicain. Terminons par cet appel à manifester du rassemblement de l'opposition le 19 décembre dernier sur toute l'étendue de la République. Il y a donc eu une très faible mobilisation pour la marche de l'opposition contre le calendrier électoral, indique Jeune Afrique. Après ce qu'il estime aussi être un échec, Forum des As appelle l'opposition à changer sa stratégie de lutte. Actualité.cd de son côté présente des chiffres. La police nationale congolaise annonce avoir appréhendé 27 militants de l'UDPS. Les personnes interpellées à l'échangeur de Limété à Kinshasa ont été libérées après l'intervention de Félix Tshisekedi, ajoute le site d'information en ligne.
Merci Alain Hirong. Dominique Dinanga, journaliste à la radio Top Congo FM, mettant à Kinshasa. L'actualité de la semaine était abondante. Vous avez suivi cette revue de presse d'Alain Hirong. Mais prenons la loi électorale qui a été votée vendredi dernier, selon la version proposée par l'Assemblée nationale conformément à la Constitution.
Voilà, nous avons tous suivi ce qui s'est passé au Parlement, la loi qui a été voté en des termes différents entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'était bien sûr en des termes différents. Et comme le dit bien la loi, dans ces cas, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui prime. Voilà, cette loi est restée telle qu'elle, avec des points positifs comme des points négatifs. Mais il faut souligner que c'est quand même intéressant d'avoir un cadre légal pour l'organisation des élections. Mais on n'a pas tenu compte des différentes revendications d'une certaine classe politique. Il faut souligner également que c'est une loi, un projet de loi bien sûr, parce que il n'a pas encore été, la loi n'a pas été encore promulguée par le président de la République. On parle encore d'un projet de loi. Voilà, qui a été voté sans les députés de l'opposition et les choses se sont passées comme cela. Alors, il y a des petites choses que j'ai eu à noter là. C'est une loi qui exclut quand même une certaine catégorie de la population, il faut les souligner. Vous imaginez aujourd'hui que vous avez l'intelligence, vous êtes assez outillé intellectuellement pour diriger les pays ou bien apporter votre pierre de contribution à l'édifice, mais vous êtes buté à un problème de caution qui a été vraiment exorbitante. Je crois que c'est un point sur lequel le président de la République devra tenir compte, bien sûr, avant la promulgation de cette loi. Il y a également ces problèmes des seuils. C'est vrai qu'il y a des points positifs et des points négatifs, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons décrié tous ce que nous avons appelé la prolifération de partis politiques. Vous vous retrouvez avec des milliers de candidatures. Et d'une part, oui, c'est une bonne chose qu'on trouve une disposition qui décourage les petits partis politiques donc à présenter des candidatures. Mais d'une part aussi, on doit reconnaître que ça va exclure encore un certain nombre de la population, bien sûr, ou bien de partis politiques à pouvoir concourir, bien sûr.
Merci, Pius Romain Roland, journaliste à RDC26.com. La loi électorale votée sur fond des contestations, n'est-ce pas un mauvais départ? Dominique Dinanga vient de dire que c'est une loi qui exclut une certaine catégorie des personnes.
Non, c'est faux. D'abord, je voulais dire que la loi est impersonnelle et c'est ça même la beauté de la démocratie. Il y a la majorité qui s'exprime, il y a l'opposition qui conteste, mais la salle n'avait pas été vidée qu'avec l'opposition. Il y avait une frange de l'opposition qui était restée, mais c'est l'aile dure qui a préféré aller au Sénat, plaider au Sénat, où ils n'ont même pas une voix de vote. Une pression qui pensait être couronnée par ce qui s'était passé lors de notre projet de loi en 2015. Mais malheureusement, Dominique l'a dit, c'est l'Assemblée nationale qui prime. Au fait, je me dirais que je suis l'homme le plus heureux par cette loi électorale. Et j'ai l'impression que ma voix a été entendue. J'ai toujours plaider le regroupement ou la mise à mort de certains partis politiques que j'ai dénommés alimentaires. Et ces partis politiques ont allumé le feu dans la sphère politique. Je vais vous citer un certain nombre de partis politiques. Et vous allez voir les dénominateurs communs de ces partis politiques. Tu prends le PPRD, tu prends l'UNC, tu prends les CNC, tu prends l'AFDC, tu prends les CID. Tu prends l'UDPS, tu prends le PALU. Quel est le dénominateur commun de ces partis politiques? Ils sont tous de gauche. Mais vous allez trouver un groupe...
Tous
des
socialistes.
Ils sont des socialistes. Mais vous allez trouver un groupe dans l'opposition, un groupe dans la majorité. Donc il n'y a pas une lutte idéologique. Il y a une lutte des personnes. Et la conséquence, c'est quoi? Nous avons 704 partis politiques.
Et donc, vous êtes convaincu qu'à travers cette loi, on va corriger cela?
J'ai toujours dit qu'il fallait créer les blocs. Il fallait créer 4 blocs. Vous avez les socialistes, vous avez les républicains, vous avez les libéraux, vous avez les fédéralistes. Ça suffit pour aller aux élections. J'ai entendu Dominique...
Est-ce que vous pensez que ça doit se décréter? N'est-ce pas que c'est une dynamique qui doit se former au sein de la société? Et c'est cette dynamique qui peut faire que les gens commencent à se regrouper selon les idéologies?
Non, il n'y a pas de petit parti politique, il n'y a pas de grand parti politique. Lorsque vous vous êtes mis en tête de créer un parti politique, la condition sine qua non, c'est que vous devrez être représenté sur l'ensemble du territoire national. Merci. Et les cofondateurs doivent être de 26 provinces.
Merci.
Et en quoi vous allez vous dire que vous êtes parti politique? En quoi vous avez peur du seuil qu'on a décrété?
Voilà, c'est un débat qui est loin d'être clos. Et on va continuer dans d'autres émissions. Baba Isaac Kalonji, journaliste indépendant basé à Mbujimayi au Kassai oriental. Étant donné l'importance de cette loi, certains experts demandent au chef de l'État, Joseph Kabila, de la renvoyer au Parlement afin qu'elle puisse obtenir les consensus exigés. Baba Isaac Kalonji. Allô Baba Isaac, apparemment nous l'avons perdu. Et donc nous allons aborder notre premier thème de ce soir. Le rassemblement de l'opposition a appelé la population à manifester le mardi 19 décembre dans les rues de Kinshasa et en province. Selon les organisateurs, l'objectif était d'exiger le départ du président Kabila au 31 décembre 2017. Ils protestaient aussi contre le calendrier électoral ainsi que la loi électorale. La situation est relativement restée calme sur toute l'étendue du territoire national en dépit de l'appel du rassemblement de l'opposition a marché pour revendiquer la tenue des élections sans Kabila. Jeff Ngoy nous dresse ici une évaluation de cette journée à travers quelques grandes villes du pays. On l'écoute.
À Matadi, les commerces et autres bureaux ont ouvert et pour certains légèrement en retard. La circulation n'a pas été réellement intense comme à l'accoutumée aujourd'hui dans la ville de Matadi, surtout dans les communes de Mvuzi et Nzanza. Un déploiement des éléments de la police a été observé à travers les grandes artères, notamment au rond-point Mvuadou, d'où devait partir la marche de l'opposition. À Kisangani, l'appel du rassemblement de l'opposition n'a pas été suivi par la population. 24 heures avant le jour J, un dispositif sécuritaire a été déployé dans les grands carrefours de la ville. Les activités dans la ville se sont déroulées normalement. À Ouvira, l'organisation des manifestations pacifiques a été interdite par les autorités territoriales. D'après le porte-parole du rassemblement à Ouvira, le peuple a été mobilisé à rester chacun à son domicile malgré cette interdiction. À Kinshasa, c'est la même situation. Les activités ont tourné au ralenti cet avant-midi au centre-ville et à la cité. Les commerces et les bureaux administratifs sont restés ouverts, mais accueillant de moins en moins le monde.
Merci Jeff Ngoy. Dominique Dinanga, journaliste à la radio Top Congo FM, mettant à Kinshasa. Une fois de plus, les marches prévues par le rassemblement s'est mue en journée ville morte. En plus du nombre élevé de policiers déployés à travers la ville de Kinshasa et certaines villes de la RDC, les militants n'ont pas répondu au mot d'ordre du rassemblement, ce qui est fait à la fois étonnant et nouveau. Comment vous analysez ces faits-là?
Merci beaucoup. Mon analyse, c'est l'analyse de tout Congolais averti et c'était sans surprise. C'est une analyse personnelle qui n'engage que moi. Alors, je tenais à souligner que je ne dois pas y aller avec complaisance. Je ne suis pas un journaliste de l'opposition ni de la majorité. J'essaie simplement d'analyser l'actualité de manière objective telle que je l'ai perçu. C'est vrai qu'il n'y a pas d'objectivité objective, mais je dis clairement ce que j'ai vu. Voilà, c'était sans surprise. Nous savons que c'est pas la première fois que telle situation arrive. Ce que nous avons vu, c'est quoi? La manifestation prévue par l'opposition s'est plutôt transformée en une journée ville morte et ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce que nous avons vu la journée du 19 décembre déjà? La nuit, le matin aussi, un fort déploiement des agents de l'ordre donc dans tous les carrefours de la capitale. Une situation qui ne présageait rien de bon. Ils étaient là comme s'ils attendaient les ennemis qui devaient venir très armés. Alors on s'est cru dans un champ de bataille où il s'éteignait déjà là prêt à attendre l'ennemi qui devait arriver.
Dominique Dinanga, oui. Ce n'est pas la première fois que l'on déploie les policiers à travers les grandes villes du pays lorsque le rassemblement envisage d'organiser une marche. Mais cette fois-ci, l'effet qui a étonné, c'est que cette fois-ci, les militants ne sont pas partis répondre au mot d'ordre du rassemblement.
Plusieurs facteurs.
Souvent, les militants y vont, c'est vrai qu'on les disperse, mais cette fois-là, on ne les a pas vus. Qu'est-ce qui explique ces faits nouveaux?
Plusieurs facteurs peuvent justifier cela. C'est à différents niveaux. Au premier niveau, c'est d'abord au niveau des forces de l'ordre qui ont été déployées. Vous savez, le passé déjà nous renseigne, on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Qu'est-ce que nous voyons chaque fois qu'il y a des manifestations de l'opposition? Ça finit toujours par un bain de sang. Ils sortent, on les tue. Alors est-ce que ils vont continuer à sortir comme ça? Ce n'est pas bien. Alors à un certain moment, c'est une peur. Donc j'ai dit simplement que c'est la peur qui avait animé les manifestants. Donc ceux qui voulaient bien sûr manifester, ce n'est pas qu'ils ne sont pas sortis parce qu'ils ne voulaient pas sortir, mais plutôt parce qu'ils ont été effrayés par le dispositif sécuritaire qui a été déployé donc de manière rocambolesque dans toutes les rues de la capitale. Alors c'est simplement ça. Et puis il faut souligner un fait. Est-ce que les revendications du rassemblement sont illégitimes? Parce que dire aujourd'hui que la population n'a pas adhéré à cette démarche, je trouve que c'est un peu flou. Qu'est-ce que l'article 26 de la Constitution dit? Elle dit que la liberté des manifestations est garantie et toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente et nul n'est contraint à prendre part à une manifestation et la loi en fixe les mesures d'application. Les organisateurs ont informé, on ne dit pas demander l'autorisation, ils ont informé l'hôtel de ville, mais qui a refusé d'autoriser cette manifestation. Alors,
pourtant, nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation.
Exactement, c'est ça le grand problème.
Merci,
mais ce qui fait mal, c'est quand une certaine classe politique organise calmement les manifestations et tout se déroule très bien. Ils n'informent même pas, les autres n'informent même pas l'autorité urbaine.
Merci, on les
laisse faire. Et puis, j'allais clôturer avec du côté mobilisation également, il faut reconnaître parce que les organisateurs eux-mêmes ont reconnu qu'ils n'ont pas suffisamment mobilisé la population. Alors, c'est un peu partagé.
Merci.
Voilà.
Merci, Pius Romain. Roland, journaliste à rdc26.com. On sent la détermination du pouvoir des autorités de la RDC à ne pas autoriser les marches du rassemblement, mais aussi une certaine démotivation de la part des militants, notamment ceux de l'UDPS. Comment vous expliquez ça?
Je voudrais d'abord poser la question, est-ce que nous sommes dans une république de manifestation? Nous ne sommes pas dans une république de manifestation.
Vous voulez dire quoi par là?
Est-ce que Félix Tshilombo a hérité de son père?
Mais est-ce que vous rappelez que la Constitution consacre les manifestations publiques, pacifiques?
Ok, dirons-nous que chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, vendredi, samedi, il faut manifester. C'est la question que je pose, est-ce que nous sommes dans une république de manifestation? Non, c'est de la distraction. La population s'est rendue compte que l'opposition est affairiste. L'opposition n'a pas besoin d'aller aux élections. Tenez, le 19, j'ai noté lorsque vous parlez, le 19, protester contre le calendrier et la loi électorale et le départ de Joseph Kabila. Le 31 décembre, il nous faut convoquer les scrutins. Ok, allons dans la logique du 31 décembre. Il faut convoquer les scrutins.
31 décembre 2017.
2017, dans quelques jours. Je voulais poser la question, quel est le candidat de l'opposition qui a déjà déposé sa candidature à la présidentielle? Est-ce que la CENI a déjà ouvert l'appel à la candidature? Est-ce qu'il y a les candidats de l'opposition qui ont déjà imprimé les affiches pour aller battre campagne?
Si j'ai bien compris les messages de l'opposition, en fait, l'opposition ne demande pas qu'on aille aux élections tout de suite en 2017. Non, l'opposition dit que si Kabila n'organise pas les élections en 2017, on instaure une transition sans Kabila. En fait, ici, l'opposition est en train de militer pour une transition sans Kabila. Beaucoup plus pour cette transition que pour les élections.
Je prends note. On doit respecter la loi. Et l'UDPS nous a toujours recensé les oreilles que nous sommes dans un état de droit. L'état de droit signifie respecter la loi. Qu'on me donne la disposition qui parle de la transition en République démocratique du Congo. Quelque part, l'opposition veut mettre la Constitution à côté. Et d'ailleurs, Félix Tshilombo l'a toujours dit qu'on va mettre la Constitution à côté et on va voir comment on va organiser les pays. Et quand les autres disent « mettons la Constitution à côté », non, vous violez la loi. Non, mon frère. Et j'en appelle à la population et je félicite la population qui a refusé de suivre le mot d'ordre de l'opposition pour se nous distraire. Quand bien dans le temps, la population restait à la maison. La population ne restait pas à la maison pour respecter le mot d'ordre de l'opposition. Non, la population avait peur des représailles. Le représailles, puisque tout se terminait par la destruction. de biens publics de l'État. Et avec ça, vous allez construire le pays comment? Est-ce que le problème, c'est Kabila? Est-ce que le problème, c'est la constitution? Est-ce que le problème, c'est la conscience du peuple congolais qu'il faut fomenter pour que nous ayons réellement un peuple qui a besoin de la reconstruction de sa république? Lorsque tout le temps, vous appelez la population à manifester, et j'entends ici, la population a eu peur puisqu'il y a eu un déploiement extraordinaire de militaires. Oui, justement, c'est ça l'État. On ne peut pas laisser, puisque vous dites vous êtes population, on va vous laisser manifester et recevoir ce que nous avons eu dans le mois passé, la destruction de certains sièges des partis politiques, le pillage de certains magasins. Non, on ne construit pas la République comme ça. On construit...
N'est-ce pas là un procès d'intention?
Non, c'est pas un procès d'intention.
L'opposition, le rassemblement a parlé des manifestations pacifiques.
Il n'y a jamais eu manifestation pacifique. L'UDPS, excusez, je vais ouvrir une parenthèse, avant que je ne sois journaliste, j'ai fui un des responsables de la jeunesse de ce parti. Et on nous disait toujours que l'UDPS est un parti de non-violence. Est-ce que, dressons-nous le bilan, l'UDPS s'est montré comme un parti de non-violence?
Merci.
Est-ce que toutes les manifestations ont été pacifiques avec la destruction des caméras à l'extérieur, avec la violence faite aux élèves, interdire même l'élite congolaise à poursuivre la connaissance, lui interdisant d'aller à l'école? Merci. Est-ce que c'est ça la lutte pacifique? Non, je trouve que c'est du bluff. Allons aux élections, c'est le 23 décembre. Ce que moi j'aurais voulu, c'est que l'opposition devrait prendre le pouvoir à la gorge, c'est-à-dire, écoutez, il y a la loi électorale. Prenez le pouvoir à la gorge. Le 23 décembre, peuple congolais, 2018, hein. Nous tous allons aux élections. Après 2018. Le 23 décembre, vous allez voir maintenant, vous allez dresser le bilan. En ce moment-là, tout le monde prendra fait et cause.
Dominique Dinanga, à travers cette marche, le rassemblement voulait exiger le départ du président Kabila le 31 décembre, aussi rejeter le calendrier électoral ainsi que la loi électorale. L'opposition n'est-elle pas dans une position difficile, dans ce sens qu'elle initie et mène ses actions dans un contexte où le processus électoral est en marche? En envisageant de telles actions, est-ce qu'elle n'est pas dans une position difficile? Parce que, de l'autre côté, on brandit le fait que le processus électoral est en cours.
Le processus électoral est en cours, c'est vous qui le dites. Je ne peux pas vous contredire sur ces points, mais je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, répondre à mon ami Pius Roland. Pius Roland doit savoir que si le rassemblement avait appelé à marcher ou à manifester, ce n'était pas pour réclamer les élections le 31 décembre, c'était plutôt pour réclamer une transition sans Joseph Kabila. C'est leur droit légitime. La constitution de la République démocratique du Congo garantit la liberté d'opinion. Alors, leur raisonnement est logique. Il est en train de parler de la violation de la constitution. Mais vous devez savoir qu'aujourd'hui, est-ce que cette constitution a été respectée? Ceux qui sont au pouvoir ont-ils respecté cette constitution? Parce que si elle a été respectée, aujourd'hui, il y aurait déjà eu alternance dans ces pays. On aurait déjà eu une élection sans le président Joseph Kabila et c'était en 2016. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui n'était pas prévue par la constitution. Aujourd'hui, la majorité est en train de brandir l'article 70 de la constitution. Mais l'article 70 de la constitution parle d'une situation bien claire, c'est-à-dire qu'il y a eu une élection du président de la République.
Là, vous évoquez, et 90 vous jours la linéa après, 2.
Exactement, et 90 jours après, il devait y avoir la remise et reprise entre les deux chefs, donc les sortants et l'entrant. Donc c'est ce que dit l'article 70 qui a été interprété, je dirais, de manière erronée, je dis ça en langage que moi, de manière erronée, donc qui plaisait bien sûr à la majorité présidentielle.
Selon vous, on peut recouvrir à l'alinéa D de l'article 70 qu'au cas où on a déjà élu un nouveau président de la République,
mais c'est ce qui est
maintenant
dit
on attend qu'il y ait remise de plus entre l'entrant et les sortants.
Mais c'est ce que dit clairement la loi dit clairement que 90 jours avant, donc le président, donc la commission électorale nationale indépendante convoque l'électorat et c'est cette petite période-là de transition de 3 mois qui devrait être dirigée. C'est pourquoi il devait rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. On dit bien, je souligne bien sûr le président élu. Il n'y a pas
Dominique,
eu cette élection.
Ça c'est.
Il y a eu accord. Il y a eu accord
c'est
de
c'est
la.
C'est encore une fois le
voilà,
plus voilà. Un débat hein, entre la majorité et les rassemblements. Chacun a sa façon d'interpréter, n'est-ce pas, l'alinéa de l'article 70. Mais je vous ai posé la question, est-ce que l'opposition ne se trouve pas dans une posture difficile à ce moment-ci, au moment où les faits sont là, le processus est en cours, mais ils initient les actions. Est-ce que c'est pas
compliqué pour l'opposition? Mais comment vous dites que le processus est en cours alors qu'on ne sait même pas respecter les engagements pris de manière libre? Libre, il y a eu un accord, on dit que les accords rendent esclaves. Quand vous signez un accord, un homme d'État, c'est celui qui est censé respecter ses propres engagements, ses propres paroles. Il y a eu accord de la Saint-Sylvestre qui prévoyait les élections donc le 31 décembre. Vous savez tout ce qui s'est passé autour de cet accord qui n'a jamais été respecté. Aujourd'hui, la CENI vient nous donner une autre date. Reste à savoir s'il y a réellement une volonté politique d'organiser ces élections.
Tu se remets, Roland, les engagements ont été pris, ils n'ont jamais été respectés. Donc, il y aurait aussi un problème de méfiance, n'est-ce pas, de la part de l'opposition à l'endroit du président Kabila. On peut tout dire aujourd'hui, on peut dire que le processus est en cours, il y a un calendrier électoral qui fixe les élections au 23 décembre 2018, mais l'opposition dit que elle ne voit pas pourquoi est-ce qu'elle va croire à toutes ces promesses dès lors que, avec le même président, plusieurs accords ont été signés. Et ces accords-là, le président n'a pas, ne les a jamais respectés et ne les voit pas comment aujourd'hui le même président va accepter de respecter les calendriers qui venaient d'être publiés par la CENI. Donc il y a un problème de méfiance. Comment résoudre ce problème-là?
Mauvaise lecture de la loi fondamentale. Mauvaise lecture des textes réglementaires.
Ça, c'est de la part de l'opposition?
De la part de l'opposition, de la part de mon ami qui est à ma droite, Dominique. Il a évoqué l'article 70 de la Constitution. Notre Constitution ne ressemble à aucune Constitution de la République d'Haïti. Lorsqu'on parle que Martelly a déposé, c'est puisque la Constitution de l'Haïti dit au terme du mandat, le chef de l'État dépose. Ici, il y a l'incise. Et qui a introduit l'incise, c'est l'effet Mwando Simba sous la présidence d'Olivier Kamitatu, aujourd'hui au G7. Mauvaise lecture. Et qui a garder Joseph Kabila aujourd'hui au pouvoir? C'est l'opposition. Si vous me posez la question, comment? Mais Malumalo avait proposé le calendrier que l'opposition a refusé. Vous allez aller aux élections comment? L'opposition a refusé le calendrier en complicité avec Martin Kobler, qui était ici. 2 calendriers que l'opposition a rejetés. Et aujourd'hui, vous dites que le 19, le 31, l'opposition organise la marche pacifique pour exiger le rejet du calendrier et la loi électorale. Vous rejetez le calendrier et vous demandez les élections. On va aller comment? Et vous demandez qu'on fasse la transition sans Kabila. J'ai entendu ici que la Constitution a été violée. Et lorsque l'opposition viole la Constitution, aucune disposition constitutionnelle qui consacre la transition en République démocratique du Congo, je me pose la question. J'apprends ici qu'il faut, au terme de mandat, Kabila devrait déposer. Ok, je suis tout à fait d'accord. Kabila dépose. Qui devrait être le président de la République? Par quel mécanisme devons-nous choisir le chef de l'État? Qui devrait organiser les élections? Il y a ceux qui se sont déclarés candidats, mais ils n'ont jamais déposé leur candidature à la CENI.
Merci.
Est-ce que vous savez que dans la presse, je suis le seul journaliste qui ait dit « je serai candidat président de la République ». Est-ce que pour autant, la CENI a déjà avalisé ma candidature? Ce n'est qu'une déclaration.
Ah, donc on a
il faut matérialiser.
Candidat à la présidentielle.
Il faut je l'ai toujours dit.
Merci. On devait avoir Baba Isaac, qu'on avait d'ailleurs au début de cette émission, mais qui est parti, on n'arrive plus à les joindre. Je pense qu'il se pose un problème avec les réseaux téléphoniques. Et à la place, nous avons José Boto, qui est journaliste indépendant. José Boto, bonsoir.
Bonsoir, Guy Maté, et bonsoir aux confrères, aux débatteurs.
Voilà, nous sommes en train de parler de manifestation du 19 décembre de l'opposition qui était prévue par la pauvre opposition mais qui se sont mués en journée ville morte. Nous avons relevé certains faits ces jours-là notamment et le fait que c'est vrai que d'habitude quand il y a ces genres de manifestations on déploie les policiers, les militaires à travers les pays, mais cette fois-là on s'est rendu compte que même les militants eux-mêmes n'étaient pas au rendez-vous, n'ont pas respecté le monde d'ordre du rassemblement. Comment vous analysez ces nouveaux faits?
Guy Maté, moi je crois l'avoir dit même une fois quand vous m'avez invité. L'opposition doit revoir ses stratégies, je dis communicationnelles, quoi, pour mobiliser les masses. Parce que cette histoire-là des villes mortes, tout le monde a compris que ça ne marche pas. Et eux-mêmes le savent aussi. Et moi je m'étonne de la réflexion qu'a faite un des leaders de l'opposition. Il dit que bon, c'est facile en fait de traverser la rue comme ça, de dire que non, la population a mieux ça en ville morte elle-même. Non, ben, ça va pas là. Hein. Le problème est que cette recette-là ne marche plus. Il faut chercher d'autres stratégies.
Merci Joseph Boutou. Malheureusement, vous arrivez au moment où on était à la fin du premier thème. On va aborder le deuxième thème. Les nouveaux gouverneurs des provinces du Kasaï central, de la Mongala et de l'Équateur sont connus à l'issue de l'élection organisée hier jeudi par la CENI. Il s'agit respectivement de Denis Kambayi, Bobo Boloko et Lui Mbonga, tous candidats de la majorité présidentielle. Dans la première province citée, il s'agissait de trouver un successeur à Alex Kande, déchu en octobre dernier après l'adoption d'une motion de censure. La tâche ne sera pas du tout facile pour l'ancien ministre des Sports, Denis Kambayi, qui va hériter d'une province avec plein de défis accentués par les conflits qui a secoué l'espace kassaïen. Joël Bofengo nous donne des détails.
Par 12 voix contre 10, l'ancien ministre de sport Denis Kambayi devance son challenger Martin Kabuya. 23 députés provinciaux sur 24 ont pris part au scrutin. Un bulletin a été déclaré nul. Si ces résultats sont confirmés par la cour d'appel de Kananga le 6 janvier prochain, Denis Kambayi va succéder à Alex Kondé. Le nouveau gouverneur va hériter d'une province qui fait face à d'énormes difficultés. L'insurrection de la milice Kamuinantsapu qui a embrasé toute la région du Kasaï et partie du Kasaï central. Un conflit de pouvoir coutumier qui s'est transformé en l'une des crises les plus graves que le pays a connues au cours de ces dernières années. Plus de 3000 personnes ont trouvé la mort dans la région selon l'église catholique. Près d'un million et demi de personnes ont été contraintes de fuir leurs habitations. Après plus d'un an de conflit, la région est dévastée. Le Kasaï central comme les provinces voisines tentent de panser ses plaies. L'économie de la province est littéralement asphyxiée. La frontière angolaise par où entraient de nombreux produits de consommation a été fermée à cause des violences. Éloignés de leurs terres, les paysans n'ont pas cultivé. Les humanitaires redoutent une grave crise alimentaire. C'est à tous ces problèmes que le nouveau gouverneur élu va devoir apporter des solutions. Depuis Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
Merci à vous, Joël Bofengo. À l'Équateur, le candidat de la majorité présidentielle a été élu gouverneur de province ce jeudi 21 décembre avec 21 voix sur 22 votants. Bobo Boloko a été opposé à 3 candidats indépendants dont le premier n'a obtenu qu'une seule voix. Ainsi, par consensus des députés, la province a basculé officiellement dans la majorité présidentielle. Dans la Mongala, c'est Lui Mbonga de la majorité présidentielle qui est élu gouverneur de province avec Aimé Bukungu du MSR et la majorité présidentielle comme vice-gouverneur. La liste de Lui Mbonga a obtenu 22 voix sur 23 votants avec une abstention. Son adversaire Jali Sassi, indépendant, n'a récolté aucune voix. Pius Roland Romain, vous êtes journaliste à rdc.com. Comment vous analysez l'élection de ces 3 gouverneurs qui sont tous de la majorité présidentielle?
Mais c'est la conséquence du boycott des élections de l'opposition de 2006. L'opposition n'a pas de députés provinciaux.
Si. L'opposition a des députés provinciaux dans beaucoup de provinces. C'est comme le Kasaï, c'est comme le Bas-Congo, l'Ex-Bandundu, l'Équateur. Vous rappelez d'ailleurs que la ville de Kinshasa était occupée par la majorité des députés du MLC, opposition, même l'Équateur également. Donc il y a des opposants qui sont dans ces assemblées provinciales.
Allez-y comprendre lorsque je parle de l'opposition, c'est quelle opposition? Il n'y a pas une vraie opposition. Et en République démocratique du Congo, il n'y a pas de l'opposition. Il y a que des gens qui sont à la recherche de leur bien-être. Au fait, c'est la lecture de ce qui va advenir le 23 décembre, si on ne tire pas attention. L'opposition, vous avez suivi, José Boto, il m'a suivi lorsque j'ai posé la question. Est-ce que nous sommes dans une république des manifestations? L'opposition est en distraction.
L'opposition est en train de faire le lit de la majorité. Au lieu d'aller descendre à la base, sensibiliser la soi-disante population acquise à leur cause, l'opposition est dans la rue, en train de pleurnicher comme un petit gamin. Et c'est ce qui s'est passé avec l'élection de gouverneur. Oui. Je prends le Kassai central, en proie à la violence. Est-ce que c'est Denis Kambay qui a cherché ces violences? Je connais la capacité de Denis Kambay en tant que dialogueur, un bon manager, un ancien député national, ministre des Sports qui a fait ses preuves. Je sais le potentiel que dispose Denis Kambay de faire asseoir la paix au Kassai. Le problème du Kassai aussi, c'est quoi? C'est-à-dire il n'y a pas de travail au Kassai. Et les gens fuient les milieux ruraux vers la ville, les grands centres de consommation, alors qu'ils ne produisent pas. Je prends l'Équateur. Le problème de l'Équateur a beaucoup été beaucoup plus le problème tribal. Il faut le dire. Tu n'es pas gouverneur Mongo, tu ne vas pas gérer l'Équateur. Il y a un problème de transhumance à l'Équateur. Il y a un problème de positionnement politique à l'Équateur. Il y a du désordre à l'Équateur. Il fallait imposer un certain leadership. Je prends la Mongala, je ne connais pas ce qui se passe à la Mongala. Bref, ce que je dis, le défi qu'attendent ces trois gouverneurs, c'est de permettre néanmoins à ces provinces de vivre. Sur le plan sécuritaire, sur le plan alimentaire et sur le plan de l'emploi.
Dominique Dinanga, journaliste à la radio Top Congo FM, mettant de Kinshasa. Vous avez suivi Pius Romain Roland. Et plusieurs défis attendent les nouveaux gouverneurs. Au-delà de l'espoir que leur élection suscite, vous pensez qu'ils ont quel atout pour élever ces défis? Prenons l'exemple du Kassai central que Roland Romain a évoqué ici. Une province qui vient de connaître beaucoup de problèmes. Il y a une sorte de rupture même entre les gouvernants et les gouvernés. Et donc Denis Kambay doit se battre pour la réconciliation entre les autorités politiques et la population. Il faut qu'on se batte aussi pour les retours des déplacés. Bon, il y a l'Équateur où la province a connu une situation d'instabilité pendant longtemps parce que les nouveaux gouverneurs qui arrivent ne sont pas différents, ne se distinguent pas de leurs prédécesseurs. Et donc, beaucoup de problèmes. Est-ce que vous pensez que, au-delà des espoirs que leur élection suscite, au-delà de la bonne foi qu'ils ont, est-ce qu'ils ont des atouts pour relever ces défis?
Voilà, merci. Je commencerai d'abord par recadrer mon co-débatteur qui soulignait quand il prenait la parole que nous ne sommes pas dans un pays de manifestations, mais nous sommes dans quel pays alors? Nous ne sommes pas dans un pays de manifestations alors que vous avez une constitution qui garantit les manifestations publiques. Je trouve qu'on doit quand même respecter les auditeurs.
Parlons élection de nouveau gouverneur.
Ça c'est un point à part. Je ne veux pas parler des individus ici. Alors, ils sont déjà élus, je ne veux pas revenir sur leur appartenance politique. Nous avons vu qu'ils sont tous trois de la majorité présidentielle et ça n'étonne personne. Ils ont été élus par des députés qui sont dans quelle situation économique actuellement? Vous savez bien ce qui se passe dans les assemblées provinciales. Il y en a qui ont entassé 4, 5 à 6 mois sans avoir touché à leur salaire. Alors aujourd'hui, je ne dis pas qu'il
vous voulez
y a
dire quoi
eu...
Vous voulez dire quoi? Que les votes n'étaient pas libres?
Je ne veux pas tirer une conclusion, mais je suis en train de présenter le fait. Je remarque simplement qu'il y a des députés qui n'ont pas été payés depuis plusieurs mois, mais qui devaient départager des candidats de la majorité. Ceux qui sont proches de l'opposition, ça c'est entre guillemets, s'ils sont réellement de l'opposition, qui se sont présentés comme opposants. Par exemple, au Kassai central, où il y a eu Denis Kambay Chimbumbu, qui était candidat de la majorité présidentielle, qui a affronté, bien sûr, le candidat Martin Kabuya, qui était proche de l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala. Voilà, mais je ne veux pas entrer dans une polémique sur qui est qui et je ne peux pas affirmer ce que je n'ai pas vu et ce dont je n'ai pas les preuves parce
Parlons
que je suis journaliste.
Parlons des défis, Dominique Dinanga.
Voilà, les défis sont énormes. Je commence par la province du Kassai central. Vous savez tous ce qu'a connu cette province. Moi, j'ai dit que cette province a connu une situation d'instabilité délibérément voulue par le gouvernant. S'il y a eu cette histoire de Kamuina Nsapu, c'est parce qu'il y a eu je parlerai plutôt d'une ingérence dans un conflit coutumier, donc, c'est-à-dire le gouverneur le ministre et les autres, je ne vais pas citer de noms, qui sont allés s'ingérer dans une situation qui pouvait être réglée de
voilà.
manière...
Vous rappelez ce qui est connu. Maintenant, voilà. comment Denis Kambayi doit faire pour résoudre ce problème-là?
La première des choses, c'est la remise en cause. Quand on est devant une situation, quand on est devant des défis, la première des choses à faire, c'est de se remettre d'abord en cause. Tirer les leçons de son prédécesseur. Aujourd'hui, son prédécesseur est mal aimé. Pourquoi il est mal aimé? Alors, toutes ces erreurs-là d'Alex Kandé, permettez-moi de citer le nom, doivent servir de leçon à Denis Kambayi. Nous avons aujourd'hui une province déchirée. Une province, où la cohésion n'existe que des noms. Elle n'existe pas, bien qu'il y a eu cette histoire de semblant, de réconciliation, je ne sais pas. C'était la réconciliation entre qui et qui. Alors, le défi sécuritaire vient en première position au niveau de la province du Kasaï central. Le deuxième défi, ce sont les routes. Elles sont quasiment inexistantes. L'année passée, je suis allé à Kananga, mais c'était déplorable. Il n'y a pas de route. Les infrastructures posent un sérieux problème. Et puis, il y a cette question de réconciliation et cohésion sur laquelle donc Denis Kambayi Tshibombo devra vraiment conjuguer beaucoup d'efforts parce que c'est vraiment énorme. Alors, s'il doit y aller avec complaisance, comme c'est que nous l'avons vu faire ici, là-bas, il faut pas y aller avec ce qu'on appelle ici les Loenge. Non. Il faut maintenant se mettre au travail. Qu'on soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, ce qui compte avant tout, c'est l'intérêt de la population.
Et surtout, comme vous l'avez dit, se remettre en cause et tirer les leçons du passé.
Exactement.
Merci.
Voilà,
merci.
Là, c'était le Kasaï central.
On a passé du temps, malheureusement.
Mais vous avez donné plus de temps à mon co-débatteur.
On a passé du temps, malheureusement.
Je ne suis qu'au début. Voilà.
Oui.
Il y a également la province de la Mongala. Les problèmes que connaît aujourd'hui la province de la Mongala, ce sont les mêmes problèmes que connaissent toutes les nouvelles provinces. On sait comment cette histoire de découpage territorial s'est déroulée. Ça s'est passé en précipitation. On ne s'y est pas préparé bien avant. Aujourd'hui, cette province a un problème sérieux d'abord des infrastructures. Il faut des actions de développement. Il faut construire des routes. Il y a un problème d'eau et d'électricité dans cette province.
Merci.
Et au niveau de l'Équateur, je suis allé l'année passée à Mbandaka. C'était la première fois que j'arrivais dans cette province. Alors, pendant qu'on était en train d'avancer avec les collègues, je leur ai demandé si le centre-ville était encore loin. Malheureusement, ils me diront que nous étions déjà en plein centre-ville.
J'ai dit, José Boto, journaliste indépendant, on dit qu'il n'y a pas de provinces pauvres en RDC. Toutes les provinces sont potentiellement riches. Alors, comment vous expliquez le fait que le gouverneur n'arrive pas à créer des richesses dans ces provinces? Tous ces gouverneurs, apparemment, ne jurent que par la rétrocession que Kinshasa envoie et qui n'est pas d'abord suffisante et qui arrive au compte-gouttes. Pourquoi ces gouverneurs n'arrivent pas à prendre des initiatives pour créer des richesses à partir des potentialités locales?
Tout simplement, Guy Maté, c'est parce que ce n'est pas des bons managers, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, ce qui devait être privilégié, c'est l'esprit managérial de ces gouverneurs. Un gouverneur doit être un manager. Et les gouverneurs qu'on a aujourd'hui, ceux qui viennent d'être élus là par exemple, moi, je connais très bien la province de l'Équateur, parce que malheureusement, je suis originaire de cette province-là. Mais il y a des choses parfois qui sont inqualifiables. Bon, je ne sais pas revenir sur ce qui s'est passé par rapport à l'élection de ce nouveau gouverneur, mais ce que je veux dire, Dimat, c'est que nos assemblées provinciales là, elles ne reflètent que ce qu'elles ont. Hein. C'est des députés provinciaux qui savent pas les rôles qu'ils doivent jouer et qui ne voient que leur poche. Et quelqu'un qui les aide à nouer les deux bouts du moins, entre guillemets, ils lui disent où mais là, ou je sais pas moi quoi. Et voilà quoi. Et on a affaire à des gouverneurs à la limite du supportable parfois. Je vous dis, c'est des mauvais managers. Aucune de nos provinces n'est pauvre. Aucune. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Vous venez de le dire, Guy Maté. Ils ne se soucient que de la fameuse rétrocession qu'on leur groupe à partir de Kinshasa ici. C'est ça le comble, en fait, pour notre pays. Aussi longtemps qu'on n'aura pas des bons députés provinciaux, des députés provinciaux qui connaissent ce qu'ils doivent faire, qui doivent jouer le vrai rôle de grands électeurs, on n'aura pas de bons gouverneurs. Il y aura toujours du clientélisme, il y aura toujours ces mots d'ordre qui passent. Et les mots d'ordre, là, moi, je me dis, c'est les mots d'ordre que donne, par exemple, la majorité présidentielle pour que leur gouverneur soit élu, c'est quoi les mots d'ordre? Je suis sûr que c'est des enveloppes qui circulent la nuit. Voilà. Mais est-ce que les gouverneurs, ils ont été élus par rapport à ce qu'ils ont comme projet pour développer leur province? C'est le cadet de leurs soucis.
Merci
voilà
beaucoup.
Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, mon frère. Espérons peut-être pour les prochaines élections, la prochaine législative, peut-être qu'on pourra avoir des vrais députés provinciaux, des vrais gouverneurs.
Merci, merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Bob Blandou qui était à la technique, à Alain Irongo qui a réalisé et coordonné cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne fête et meilleurs vœux pour l'année 2018 qui va commencer dans quelques jours. Bon week-end sur Radio Capi.